Interview.
6 ans que l'association Passerelle défend haut et fort cette affirmation à travers un festival organisé à la fin du mois de septembre à Dulphy. Un week-end de films, de conférences, de lectures, de photographies et de radio pour s'informer et réfléchir sur les questions de migration. Exil des Afghans, droit d'asile en France, accueil des Ukrainiens, femmes en migration, situation à Calais, adolescents sur la route, autant de sujets plus que jamais d'actualité qui seront abordés, questionnés et débattus lors de cette 6e édition, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre, à la Halle de Dulphy. Pour en parler, nous accueillons Chloé Peterman, programmatrice du festival. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Le festival s'ouvre cette année avec le film documentaire Midnight Traveler du réalisateur afghan Hassan Fazili. Ce documentaire de 2019 retrace la fuite du cinéaste contraint à l'exil lorsque les talibans mettent sa tête à prix. Pourquoi avoir proposé ce film en ouverture du festival ?
Alors, on a voulu faire un petit focus sur l'Afghanistan cette année, puisque évidemment, le film date d'avant ce qui s'est passé cet été. Mais la situation afghane, évidemment, en 2022, hyper importante, vu ce qui s'est passé cet été. Et c'est un film, j'avoue, dont plusieurs amis solidaires me parlaient depuis longtemps, en me disant « Mais Chloé, il faut absolument que tu vois Midnight Traveler ». Donc, j'ai fini par m'y intéresser. Et c'est un film magnifique. Du fait de déjà, c'est un film réalisé par un réalisateur afghan, donc on essaye de plus en plus de développer l'idée de montrer des contenus réalisés, faits, écrits par des personnes concernées, donc là c'était déjà le cas. Et en plus, c'est vraiment pour moi, c'est un film sur l'exil, mais c'est aussi un film sur la famille, sur l'amour familial. Ce monsieur prend la route avec sa femme et leurs deux petites filles, qui sont vraiment toutes petites. Et c'est incroyable comme ils arrivent à filmer cette intimité, intimité hyper bousculée évidemment, puisqu'ils sont en chemin. Ils passent énormément de temps dans ce film. Il y a beaucoup de moments qui sont dans ce qu'on appelle les hotspots, donc ces camps où les personnes migrantes sont en attente, essentiellement, en attente dans des conditions assez difficile. Et comment cette petite famille-là, elle reste aimante. Il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup d'humour aussi dans ce film. Il y a des dialogues qui sont savoureux. Donc, on se réjouit vraiment de montrer ce film. Et on va aussi le montrer l'après-midi à des classes du collège. Donc, ça, c'est une nouvelle chose qu'on a mis en place avec les murs. Ça nous semble vraiment important d'amener des contenus aussi aux jeunes sur ces questions.
Oui, le film du coup est programmé le vendredi 23 septembre à 20h15 pour le public. Et il sera projeté un peu plus tôt dans la journée aux élèves de 4e du collège Chalamel de Dulphy.
Exactement, ouais. Il y a 4 classes du collège qui viennent pour voir le film et après on fera une conversation entre les élèves, leurs professeurs et nous, bénévoles de l'asso.
Je crois que c'est une première. En quoi c'est important de parler de migration et d'asile aux plus jeunes
Ça m'a questionnée cette année parce qu'on passe plusieurs films. Le dimanche, on passe 2 films sur la question justement des mineurs non accompagnés, des mineurs qui sont sur la route, qui ont potentiellement l'âge de ces collégiens-là, puisque sur la route, il y a aussi des enfants de 14 ans, de 15 ans, qui sont très très jeunes. On n'a pas voulu leur projeter ces films-là parce que je pense que c'est trop difficile. On a choisi le film Midnight Traveler pour eux parce qu'il y a ce côté famille, parce qu'il y a de l'humour, il est plus facile, je pense, à voir pour des très jeunes. Et en même temps, il pose plein de questions sur pourquoi on doit quitter son pays, pourquoi est-ce qu'on doit emprunter les routes dangereuses, parce qu'on n'a pas de visa, parce qu'on n'a pas de papier, donc on est aussi sur la route des passeurs, etc. Donc ça permet de... Je pense que la discussion... Enfin, je me réjouis en tout cas des questions qui vont être posées par les jeunes, parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas encore l'habitude. Mais les collégiens, ils commencent déjà à avoir une conscience sociétale et politique, donc c'est bien de discuter aussi de cette question avec eux.
Cette année, le festival fait aussi l'écho d'une actualité brûlante avec la situation en Ukraine. Une rencontre est prévue samedi 24 septembre à 15h30 avec Luba Jurgensen, qui est écrivaine, traductrice et universitaire russe. C'est l'occasion Chloé Peterman, d'éclairer l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine ?
Alors, Luba, c'est une femme qui est déjà venue dans une conférence à Diolfi. On a déjà des liens avec elle dans un autre événement, l'événement sur la traduction, puisqu'elle est elle-même écrivaine et traductrice. Et elle a vraiment ce... Pour nous, c'était l'intérêt, c'était de la faire venir pour nous. Évidemment, il y a le lien avec l'actualité, mais il y a surtout cette idée de qu'est-ce que ça... Elle a pas mal écrit sur qu'est-ce que ça fait d'avoir deux langues en soi. De vivre vraiment avec ces deux identités aussi du point de vue du langage. Et la langue dans les questions d'exil, bah, c'est complètement essentiel. Donc je pense que son éclairage sera très intéressant. Et là, évidemment, que la question Ukraine-Russie va se poser. Là, par contre, ce n'est pas du tout moi qui vais l'interviewer. On fait venir Roman Petrouchine, qui est psychiatre et qui travaille notamment avec les personnes exilées. Et qui se réjouit de questionner Luba. Donc ça promet une belle rencontre, je pense.
Le festival va se déplier tout au long du week-end avec, on le disait, des projections de films, des lectures de textes, des écoutes publiques de radio, une expo photo, des conférences. L'ensemble proposé est animé par des personnes exilées, par des journalistes, par des chercheurs. C'est la marque de fabrique du festival de donner à voir une multiplicité de médiums et de points de vue sur les migrations.
Oui, complètement. Ça, c'est vraiment un peu le miel des murs ne servent à rien. C'est l'idée de pouvoir entrer dans cette question de la migration par différents médiums. À la base, vraiment les films et les lectures, mais maintenant aussi les rencontres avec des écrivains, avec des chercheurs, la discussion avec eux, la discussion avec le public. Cette année, une expo photo, on est hyper heureux de faire venir Abdul Sabour, qui est un photographe afghan qui est réfugié politique en France maintenant. Donc chacun peut faire un... On me dit souvent, ah Chloé, vous nous avez encore pondu un programme hyper dense, on pourra pas tout voir. Mais bon, l'idée n'est pas forcément de tout voir, l'idée c'est de faire son choix justement et de pouvoir s'intéresser par un des chemins ou par un autre et rentrer dans ce sujet.
Bon, on peut faire un petit focus là sur les photographies d'Abdul Sabour, comme vous en parliez. Elles seront exposées au Lavoir, rue Guénard à Diolfi. Il y a une discussion avec ce photographe afghan qui est également prévue le dimanche 25 septembre à 10h30 à la Halle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces images du coup, qui seront exposées, qui ont déjà été exposées en Serbie, en Angleterre, en Espagne et en Pologne ?
Ouais, alors Abdul, son histoire, elle est très particulière. Ben, il a travaillé pour l'OTAN, en fait, en Afghanistan. Donc, au moment où les talibans ont commencé à reprendre le pouvoir, il est devenu très, très dangereux pour lui de rester en Afghanistan. Donc, il a pris la route. Et il avait commencé à prendre témoignage de cette route déjà avec son téléphone, à prendre pas mal de photos. Et dans un des lieux de transit ou d'accueil dans lequel il a été, il y a une bénévole qui lui a offert un appareil photo. Et tout a commencé en fait comme ça. Maintenant, c'est un photographe. Moi, je le suis. Son travail m'intéressait déjà depuis hyper longtemps. Je le suis sur Instagram depuis plusieurs années, notamment parce que il documente particulièrement la situation à Calais. Et maintenant, là, depuis une année, ben, il est devenu beaucoup plus visible. Il a obtenu des prix. Il travaille maintenant pour des grands organes de presse. Et évidemment que sa force, je dirais, c'est qu'il parle, je crois qu'il parle 6 langues, dont évidemment le pachtou, le persan, l'anglais. Bon. Et ce qui lui permet d'avoir un relationnel avec les personnes qu'il photographie et avec les lieux dans lesquels il va, qui est hyper précieux. D'autant plus que cette route-là, ce chemin-là, lui, il l'a fait. Donc là, on est vraiment dans la personne concernée, mais à 200%. Ouais.
Les murs ne servent à rien, ce sont aussi des lectures de livres parus récemment et traitant de migration et de personnes exilées. Cette année, le public pourra découvrir un extrait des Damnés de la mer de Camille Schmoll, un extrait de Change ton monde de Cédric Héroux, et une lecture d'un passage du livre « Les humbles ne craignent pas l'eau » de Matthew Aikins, qui est grand reporter en Afghanistan. Ce dernier sera d'ailleurs présent à Diolfi lors d'une discussion. Qu'est-ce que peut nous apporter le témoignage d'un journaliste de terrain ?
Alors, Matthew Aikins, effectivement, il est grand reporter pour le New York Times. Il a été en poste en Afghanistan pendant de nombreuses années. Et dans toutes ces périodes où il était sur le terrain en Afghanistan, il avait ce qu'on appelle un fixeur. Donc un fixeur, c'est un métier très particulier. Ce sont les gens qui, localement, assurent la sécurité, les contacts, le relationnel sur place, puisqu'ils connaissent c'est leur pays, donc eux, ils font le lien entre le journaliste qui arrive d'ailleurs et le terrain. Et Mathieu Aikins est devenu très proche au fil des années de son fixeur qui s'appelle Omar, jusqu'au jour où la situation afghane, malheureusement, allant de mal en pis, jusqu'au jour où Omar lui a dit « Écoute, Mathieu, moi aussi, je vais prendre la route, tout le monde part. » Et Mathieu Aikins a une particularité, c'est que son père est japonais et que donc il a un physique assez particulier, notamment au niveau de ses yeux. Et que quand il est en shawar kameez, le costume traditionnel afghan, il passe complètement pour un Hazara, qui est un des peuples qui vit en Afghanistan, un des peuples d'ailleurs les plus menacés. Donc sur la route, on dirait un Afghan, quoi. Et même quand il était sur le terrain, il jouait aussi beaucoup de ça d'un point de vue de sa sécurité, c'est-à-dire que personne ne remarquait qu'il était un occidental. Et donc, il a proposé à Omar, il lui a fait cette proposition en lui disant « Écoute, moi, je veux bien faire cette route avec toi. » En fait, il s'est infiltré sur la route migratoire avec Omar. Et après, c'est pas, pour les gens qui s'intéressent un peu à ces questions, c'est pas ultra original, hein. Il y a plein de journalistes qui ont fait ça, qui sont montés sur les bateaux en Méditerranée, etc., pour essayer de documenter cette réalité. Sauf que là, on est face à une personne qui, justement, connaît très bien l'Afghanistan, connaît très bien l'histoire de ce pays, connaît les différents peuples de ce pays, nous explique très très bien les raisons pour lesquelles les gens doivent partir, veulent partir. Et après, tout au long de la route, il a vraiment un regard de journaliste, pour moi, sur tout ça. Même quand il est en Turquie, sur cette route, dans cet endroit, il nous explique qu'à l'Antiquité, ce chemin-là était déjà une route de migration. Enfin, c'est un bouquin qui est d'une richesse historique et contextuelle extraordinaire. Et ça se finit, ça, il y aura un extrait lu pendant les lectures, ça se finit dans un des plus gros squats de personnes migrantes d'Athènes, qui s'appelle le City Plaza, qui n'existe plus maintenant. Un ancien hôtel qui a été transformé en squat pour accueillir les personnes migrantes. Et le regard qu'il porte sur ce lieu, sur l'autogestion, sur les relations aidant-aider, personnes migrantes, personnes aidantes, bénévoles, c'est absolument savoureux. Bon. Notamment quand on a vécu un peu dans ces lieux-là, mais je pense pour tout le monde. Ça ouvre énormément de questions.
Donc le public sera embarqué cette année en Grèce, au Soudan, au Mali, en France, dans la vallée de la Roya, à Calais ou à Paris. Puis un petit peu au Congo, lors d'un repas proposé le samedi soir.
Ouais.
Est-ce qu'on peut savoir ce qui sera au menu, par exemple ?
Ah, alors, je n'ai pas encore le menu. Rabhi et Aude y travaillent, ça je sais, je les ai vus hier. Mais du coup, je ne pourrais pas vous donner le menu, mais je pense qu'il y aura du foufou. C'est une des choses très traditionnelles des repas congolais. Et donc, la cuisine sera congolaise et la musique, le set des DJ sera particulièrement tourné vers l'Afrique.
D'accord. Oui, les murs ne servent à rien, c'est aussi un moment de fête, notamment ce samedi.
Alors,
soir.
Surtout cette année, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire cette année, notamment parce que pendant un week-end aussi riche, souvent les gens trouvent qu'on manque de moments pour discuter entre nous aussi du film qu'on vient de voir, de l'assaut dans lequel on est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaye de faire que ce moment soit toujours plus un moment de rencontre aussi entre différents lieux de solidarité. Donc évidemment, tous les collectifs d'accueil de la Drôme sont invités à nous rejoindre, mais il y aura aussi nos amis du refuge de Briançon, des amis qui militent dans les squats, qui abritent les mineurs isolés à Lyon. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire des liens entre différents lieux de solidarité.
Localement, d'ailleurs, à Dulfi, l'association Passerelle porte un projet de lieu d'accueil pour personnes en demande d'asile. Il y a une réunion publique sur cette question qui est d'ailleurs organisée le vendredi 16 septembre à 20h30. Où en est ce projet de maison accueillante, Chloé Peterman ?
Alors, ce projet, c'est un peu le projet originel de notre association, mais on l'a remis vraiment sur la table en début d'année 2022. Les réunions du groupe projet ont commencé en janvier. Et maintenant, le projet est écrit, il est très clair dans notre tête, on sait bien ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'on est en mesure maintenant de le présenter à tous les dulfitois que ça intéresse, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont pour, ceux qui sont prudents, ceux qui sont inquiets, ils sont tous les bienvenus pour qu'on en discute le vendredi 16 septembre à la Halle. On va faire une petite présentation de 15 minutes max de ce qu'est le projet et après ce sera discussion libre, toutes les questions sont les bienvenues.
D'accord. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a une œuvre programmée lors de cette édition 2022 qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, à peu près tout ce qu'on a programmé m'a marqué, mais il faut faire des choix, effectivement, quand on veut donner un petit highlight. Peut-être je pourrais parler du film Marie-Josée vous attend à 16h. En plus, bon, il se trouve que c'est une avant-première, donc on a beaucoup de chance. On a la chance de le projeter une semaine avant sa sortie en salle. Et c'est un film qui a été primé au FIPADOC, Festival du documentaire de Biarritz. C'est un magnifique film sur une femme ethnologue qui a passé toute sa vie de chercheuse à travailler sur le Soudan et notamment sur le Darfour. Et qui, aujourd'hui, maintenant qu'elle a 85 ans, je crois, accompagne des demandeurs d'asile qui ont été déboutés à l'OFPRA. Donc ça veut dire leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Et ils vont en recours à la Cour nationale du droit d'asile. Ça, c'est un droit. Hein. C'est un lieu où on va insister sur sa demande et sur les raisons pour lesquelles on demande l'asile. Et cette femme, de par sa connaissance parfaite du terrain soudanais, des langues qu'on y parle, des peuples qui y sont, des villages, des endroits, elle accompagne ces personnes avec un courrier qui précise leur histoire pour aller porter cette parole devant la Cour nationale du droit d'asile. Et ça s'appelle « Marie-Josée vous attend à 16h » parce que le film se passe entièrement dans son appartement parisien où elle reçoit ces personnes. Et le réalisateur a une approche très très douce en fait sur cette femme, sur la façon dont elle... C'est vraiment un film d'entretien. Hein. On voit les entretiens avec les hommes et les femmes qu'elle reçoit dans son salon, dans cet appartement qui est vraiment un appartement de chercheuse et parisien, c'est-à-dire tout petit et rempli de dossiers. Il y a des piles de dossiers, de livres autour d'elle. Et le film est aussi fait une place aux photos et aux films qu'elle faisait à l'époque sur le terrain. Qui sont en plus absolument magnifiques et qui parlent d'endroits qui, pour la plupart, n'existent plus, puisque le Darfour, malheureusement, voilà, a eu une histoire très violente.
Ben, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Chloé Peterman.
Merci à vous.
Rendez-vous le week-end du 23 au 25 septembre pour une édition 2022 du festival Les Murs ne servent à rien, que l'on espère riche de rencontres, de débats et d'espoir. La programmation complète du festival est à retrouver sur le site de l'association Passerelle. Passerelle au pluriel, asso au singulier.fr.
Okay, the bird.